Ce qu'on a découvert soi-même, on le chérit plus que tout savoir transmis. Et je crains donc, en commentant le passage que vous avez médité, de vous chagriner sans trop vous convaincre si je dis autrement que vous n'avez pensé. Pourtant, je rejette aussi loin de moi que possible la démagogie du « à chacun son sens ». Je rejette l'idée qu'en multipliant ingénieusement les sens d'un texte, nous pourrions faire plaisir à tout le monde. Cela transforme la lecture en un exercice d'invention et cela empêche la parole de remplir sa fonction de parole, à savoir de nous faire épouser la pensée du Seigneur. Alors j'exposerai donc ce que je crois comprendre, en invitant bien sûr toutes vos réactions, comme il est prévu au programme. Cependant, j'éviterai, autant que je le pourrai, les chevauchements avec ce que vous venez de faire en petit groupe, en modifiant l'angle de vue, la façon de regarder. Je vais essayer de traiter du thème de la mort du Christ surtout, d'après le passage de la seconde aux Corinthiens, au chapitre 5, deuxième partie, du thème donc plutôt que de la suite de la pensée de l'apôtre dans ces versets, et je ne le ferai pas sans tirer quelques fils du riche tissu biblique, c'est-à-dire sans faire appel à d'autres passages du même apôtre Paul ou d'autres écrits encore de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je signale d'ailleurs que le choix des deux passages de la seconde aux Corinthiens n'a pas été de moi seulement. La feuille que vous avez vue le suggère. En fait, il s'agit du choix du comité parmi plusieurs propositions que j'avais faites. Donc je partage la responsabilité, ne vous en prenez pas à moi seulement, si vous pensez que le sujet sélectionné aurait pu être mieux choisi encore. Pour montrer précisément qu'il ne s'agit pas dans l'exposé que je vais faire uniquement de ce passage à mes yeux, je voudrais lire maintenant un passage de l'Ancien Testament, très connu, mais dont vous verrez le rapport avec notre sujet. Il s'agit de ce qu'on appelle le quatrième chant du serviteur de l'Éternel dans le livre du prophète Ésaïe, la grande prophétie souvent citée dans le Nouveau Testament qui nous parle de la souffrance et de la mort de celui qui devait accomplir le salut. Alors je lis dans le livre d'Ésaïe au chapitre 52. Verset 13 jusqu'au chapitre 3, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Voici, il agira sagement, mon serviteur. Il s'élèvera, il montera haut, il sera exalté à l'extrême. De même que sur toi, des multitudes se sont désolées. Oui, on lui a fait perdre l'aspect d'un homme. Il a été inhumainement défiguré. Oui, il purifiera par l'aspersion des multitudes de nations. De même, devant lui, des rois fermeront la bouche. Ils voient ce qu'on ne leur avait pas rapporté. Ils perçoivent ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Qui a cru à notre message? Pour qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Devant lui, comme une petite pousse, il a grandi, comme un rejeton hors d'une terre desséchée, sans apparence et sans éclat pour retenir notre regard, sans prestige extérieur pour nous attirer. Il a été méprisé, laissé pour compte par les hommes, hommes de douleur, familiers de la souffrance, comme celui dont on détourne les yeux. Il a été méprisé, nous lui avons refusé notre estime. En vérité, il portait, lui, nos souffrances. Il s'était chargé de nos douleurs. Et nous l'avons estimé frappé des coups de Dieu, humilié. mais il était, lui, meurtri à cause de nos révoltes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment de notre paix était sur lui, et par sa cicatrice, il y a guérison pour nous. Tous, comme des moutons, nous nous étions égarés, chacun choisissant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a subi, lui, l'oppression, l'humiliation, et il n'a pas ouvert la bouche, comme un agneau qu'on mène à la boucherie, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Par contrainte judiciaire, on l'a pris, mais qui médite le sort qu'il a eu, qu'il a été retranché de la terre des vivants, qu'à cause de la révolte de mon peuple, il a été frappé à mort. On lui a donné un sépulcre avec les impies, on l'a mis avec le riche dans sa mort, alors qu'il n'avait pas commis de violence, qu'il n'y avait jamais eu de mensonge en sa bouche. Le dessein de l'Éternel a été de l'écraser en le faisant souffrir. Si tu agrées sa vie comme sacrifice de culpabilité, il verra une postérité, il prolongera ses jours. Le dessein de l'Éternel triomphera par lui. De la peine de son âme, il verra sortir la lumière. Il sera rassasié. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera des multitudes, car il se chargera, lui, de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les multitudes. Avec beaucoup, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des révoltés. Il a porté, lui, le péché des multitudes, et il est intervenu pour les révoltés. La mort de Jésus est trop centrale dans le témoignage du Nouveau Testament pour que nous ne cherchions pas de toutes nos forces son sens. Elle occupe, vous le savez, une place de choix dans la prédication des apôtres. Paul lui-même peut dire, toujours aux mêmes Corinthiens, nous avons choisi de concentrer nos études sur des passages adressé aux mêmes croyants dans le Nouveau Testament pour assurer davantage d'homogénéité, vous l'avez remarqué. Paul peut écrire aux Corinthiens dans sa première épître au chapitre 2 « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Dans les évangiles, la part que prend le récit de la passion de Jésus-Christ, de sa mise à mort, est tout à fait disproportionné, nous semble-t-il, par rapport au reste du récit. Dans l'évangile de Jean en particulier, cela vient à occuper à peu près le tiers de l'ensemble. Et il n'y a pas de précédent dans la littérature juive palestinienne ou hellénistique. C'est un trait tout à fait étonnant. Pourquoi cette mort est-elle ainsi mise en relief? Les exigences de la sensibilité contemporaine, de notre contemporanéité, nous y poussent de leur côté à chercher le sens de la mort de Jésus. La mort me semble redevenir un sujet de réflexion assez à la mode après un temps de refoulement optimiste. Elle a toujours été, je crois qu'il faut le reconnaître, un scandale pour l'esprit de l'homme, comme les rites funéraires eux-mêmes l'attestent. Toutes les religions se sont efforcées de l'apprivoiser, et de notre temps, la mort continue de préoccuper la pensée, et peut-être plus profondément même que la pensée. Aujourd'hui, on est spécialement heurté par la mort de l'innocent, par la mort de celui qui est fauché avant le temps sans l'avoir mérité. Et cette mort de celui qui n'avait rien fait et pour qui la mort ne peut en aucun cas être qualifiée de naturelle, cette mort-là, c'est le mal contre lequel on s'indigne, c'est souvent le rocher de la révolte contre Dieu même. Comment Dieu permet-il ? Impossible. Or, la mort de Jésus à 33 ans environ, en tout cas, est précisément celle de l'innocent, même, on peut dire, plus que l'innocent, le juste. C'est le juste, le seul, qui mérite pleinement d'être appelé juste. Et cette mort, le Nouveau Testament nous atteste qu'elle a été voulue de Dieu, qu'elle était dans son plan, que c'était ce que son dessein avait prévu, c'était la volonté du Père. Et rappelez-vous la scène du Jardin des Oliviers, la prière d'agonie de Jésus qui demande au Père, en vue de cette mort, dont il sait qu'elle est toute proche, « Père, s'il est possible que cette coupe, c'est-à-dire ce destin, ce sort, que cette coupe s'éloigne de moi, mais cependant non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il n'a pas été possible que cette coupe s'éloigne de Jésus. Il a accepté, par amour du Père et par amour pour nous, de passer par ce chemin, de boire cette coupe jusqu'au fond, de mourir, parce que c'était la volonté du Père. Alors, pourquoi il nous faut discerner le sens. Est-ce que nous comprendrons cette mort si nous disons que l'amour du Christ l'a poussé à se dévouer jusqu'au bout, l'a pressé, pour réemployer l'expression que l'apôtre Paul utilise dans la seconde aux Corinthiens, l'amour de Christ nous presse, il l'a pressé lui le premier. Est-ce que nous comprendrons cette mort en disant que cette mort, cet amour qui presse à se dépenser tout entier devait conduire inéluctablement à la mort parce que la mort est l'aboutissement de l'amour. C'est une idée séduisante car il est tellement vrai que le Christ est mort par amour, montrant le plus grand amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de montrer que de mourir pour ses amis, a-t-il dit dans l'évangile de Jean. Seulement, attention, c'est la passion romantique, c'est la fureur de Dionysos, ou c'est l'éros platonicien, méprisant de la terre, qui veulent la mort. Mais l'amour biblique, si vous étudiez ses caractéristiques, n'impose pas de soi la mort comme terme et comme achèvement. Il n'y a aucune mort, aucune semence de mort dans l'amour premier, l'amour qui est plus que l'amour modèle, l'amour source, l'amour trinitaire, l'amour du Père et du Fils dans leur communication éternelle est un amour qui n'implique d'aucune manière la mort. Alors comment considérerions-nous que l'amour de soi conduit à la mort? Il n'y a rien de commun entre l'amour que Jésus atteste et la passion romantique d'un Tristan qui le conduit effectivement à la mort inéluctablement. Si nous nous imaginons que le Christ devait mourir d'aimer automatiquement, je crois que nous démontrons que nous n'avons ni de la mort, ni de l'amour, la conception biblique. Alors pourrait-on expliquer mieux cette mort du Christ en introduisant la notion de solidarité? Nous pourrions raisonner de la manière suivante. Le Christ nous a aimés jusqu'à se rendre solidaire de notre servitude. Aimer, c'est vouloir partager. Il a voulu partager jusqu'à notre mort. C'est du fait qu'il endossait notre condition jusqu'à ce terme qu'il a pu la transfigurer par sa divine puissance. Voilà encore une façon de penser qui est attrayante, puisque la solidarité que le Christ a instituée entre notre sort et le sien est évidente. Mais je crois de nouveau que le présupposé de ce mode de raisonnement à savoir qu'il fallait qu'il endosse notre condition pour la transformer, ne va pas de soi non plus. Au nom de quoi poserait-on cela comme une règle? Pourquoi n'aurait-il pas pu vaincre la mort du dehors, sans y entrer? Ce n'est pas par contact magique qu'il avait besoin de toucher la mort en quelque sorte pour en triompher. Pourquoi a-t-il fallu qu'il prenne chair et sang pour réduire à l'impuissance celui qui avait la puissance de la mort, comme dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 2? Pourquoi devait-il se jeter à l'eau solidairement et se noyer avec ceux qui se noient, si une autre possibilité lui était offerte, celle de jeter de la rive une bouée qui puisse permettre au raccroché de se noyer et de revenir sur la rive? La solidarité a un sens, mais pourquoi la mort dans cet acte de solidarité? Pourquoi a-t-il fallu qu'il unisse son sort au nôtre pour que notre sort soit uni au sien? Si notre libération avait été possible autrement, le Père aurait répondu autrement à la prière du Jardin des Oliviers. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et ça n'a pas été possible. L'Écriture ne nous permet pas de sonder toutes les profondeurs du dessein de Dieu. Ça, je crois que nous devons d'avance nous avertir, nous-mêmes et mutuellement, que nous n'éclaircirons pas tout. Mais l'Écriture élucide sans équivoque ni brouillard le sens fondamental de la mort de Jésus-Christ en divers passages, et en particulier, je crois, dans celui que vous avez lu tout à l'heure, celui de la seconde aux Corinthiens. Alors je vais essayer de le reprendre pour dégager cette signification que nous cherchons, en relevant que Paul ne commence pas par la raison, mais plutôt par les faits. Et je vais d'abord commenter ce qu'il dit lui-même en premier lieu. Au verset 14, nous avons cette expression « Tous donc sont morts ». Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Que veut dire cette première affirmation? Il s'agit, dans le contexte, assez manifestement, de l'apôtre lui-même et de ceux qui se comportent comme lui. Et le sens dans lequel ils sont morts semble expliciter au verset qui suit, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Il semble qu'il s'agit d'une mort à soi-même, d'une mort à l'ancienne façon de se comporter. Dans un passage assez parallèle, celui de l'Épître aux Romains, dans le chapitre 6, surtout, ce texte si magnifiquement commenté dans le livre de John Stott, qui a été recommandé hier soir, nous trouvons une expression qui semble à peu près de même sens que celle que nous avons ici, « ne vivent plus pour eux-mêmes ». Il s'agit de « mort au péché ». Vous êtes mort au péché, dit l'apôtre Paul. Cependant, le sens me semble plus fort qu'un simple sens moral. Nous pourrions nous imaginer que mourir à soi-même, mourir au péché, cela veuille dire simplement changer d'attitude, changer de disposition dans la conduite que l'on mène. C'est impliqué, mais je crois que l'expression est si forte, tous donc sont morts, que nous devons dire que c'est comme un trait tiré sur l'ancienne existence, c'est comme une libération même par rapport à cet asservissement de l'ancienne existence au principe d'autoconservation. C'est plus fort et semble-t-il plus radical qu'un simple changement moral. Il y a l'écho de la parole de Jésus lui-même en Matthieu 16, 25 et d'autres textes parallèles. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, celui qui s'accrochera désespérément à ce qu'il veut être, finalement va à sa perdition, mais celui qui la perdra à cause de moi, pas n'importe comment, à cause de moi, la trouvera. Il me semble que nous pouvons prolonger un peu en disant que les chrétiens, ceux qui sont en vue ici dans cette parole de Paul, devraient se considérer comme des gens dont la mort est derrière eux. Des gens qui ont déjà connu leur mort. Tous donc sont morts. Et ça change bien les choses. Des gens qui ont vu la mort de très très près, un accident, ils ont été à deux doigts. Quand ils reprennent après ça le cours de leur vie, très souvent sont profondément changés. Ils voient les choses d'une toute autre manière. Et les soucis qui les occupaient entièrement jusqu'alors, soucis de carrière, d'enrichissement, etc., sont comme remis à leur place et vus dans leur petitesse. Ils ont frôlé la mort et du coup, ils vivent autrement. Je pense que c'est de manière encore plus radicale que les chrétiens devraient comprendre la parole ici de l'apôtre Paul. Tous, donc, sont morts. Je note que cela implique les caractéristiques de la vision biblique de la mort. C'est juste une petite note que j'ajoute. De façon constante dans la Bible, la notion de mort se distingue de celle d'extinction, d'évanouissement dans le néant. Ce n'est pas une pure et simple annihilation que la mort. C'est plutôt les notions de rupture, de division, la rupture avec une ancienne façon de se comporter, les notions de paralysie, d'impossibilité d'expression qui caractérisent la mort biblique. Les morts ne cessent pas d'exister. Il est question d'eux dans le séjour des morts, mais ils sont retranchés de la terre des vivants. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus la capacité de manifester, de poser des actes. Voilà ce qui semble la caractéristique de la mort biblique. Et ceux donc qui sont morts ici doivent paralyser leur ancien moi avec ses manières de s'imposer partout, de se préoccuper de soi. Voilà, me semble-t-il, comment nous pouvons comprendre le « tous donc sont morts » du verset 14, commenté par le verset 15. Et l'apôtre Paul dit « si un seul est mort, tous donc sont morts ». Pour qu'il puisse tirer cette conséquence, il faut qu'il voie, me semble-t-il, tous ceux dont il parle, représentés dans le Christ, qui est celui qui est mort pour tous. Il faut, pour que la conséquence puisse être tirée, que tous se voient en lui. Donc c'est un élément que nous pouvons considérer comme assuré. Il y a un rapport de représentation entre le Christ et tous les autres ici en cause. S'agit-il seulement de représentation, ou peut-on préciser encore? Trois fois, dans ces deux versets, l'apôtre Paul dit « pour tous ». Un seul est mort pour tous. S'il est mort pour tous, ceux qui vivent, etc., doivent vivre pour celui qui est mort pour eux, mort et ressuscité pour eux. Ce « pour » peut se comprendre dans un sens relativement faible, en faveur de. Mais déjà, si on donne ce sens faible au mot « pour », cela suggère, me semble-t-il, que la représentation est une représentation de valeur substitutive. Si vous mourrez en faveur de quelqu'un, c'est probablement que vous lui évitez un sort pratiquement semblable, donc que vous supportez à sa place ce qui serait tombé sur lui. Cette pensée, qui me semble déjà assez naturelle dans la seule expression « mourir en faveur de quelqu'un », pensez à un pompier qui meurt pour quelqu'un qu'il veut arracher aux flammes, gravement brûlé, etc. On prendra cela dans un sens substitutif assez facilement. Ce sens substitutif me semble confirmé par l'usage de la préposition en cause dans le reste du Nouveau Testament. Cette préposition, qu'on traduit généralement pour, a assez souvent le sens de à la place. C'est assez net. À propos de la mort du Christ en particulier, dans la prophétie involontaire du souverain sacrificateur C'est l'évangile de Jean qui nous rapporte que le souverain sacrificateur, par calcul machiavélique, déclare « Si on le laisse continuer, ce Jésus, il ameute les foules, etc. Les Romains vont finalement s'irriter et faire une opération de répression qui va en faire mourir des milliers, anéantir notre nation. Alors, il est... Arrêtons ce Jésus et supprimons-le. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. » Le sens là est clairement substitutif. À la place de tout le peuple que les Romains écraseraient, un seul homme. Et alors l'évangéliste nous dit que sans le savoir, malgré lui, cet homme, parce qu'il était souverain sacrificateur, parce qu'il occupait un office que Dieu avait institué, a prophétisé, qu'il a dit le sens de la mort du Christ sans le vouloir, bien sûr, transposant qu'en effet la mort du Christ devait être une mort pour que le peuple ne subisse pas, son peuple ne subisse pas la mort. Donc le sens est substitutif de façon manifeste et c'est la même préposition qui est employée. Il y a d'autres passages, mais je cite encore un texte où c'est une autre préposition pour montrer l'équivalence qui est employée, la préposition est, qui signifie elle seulement à la place de, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 20 et au verset 28 et dans les passages parallèles des autres évangiles, Jésus dit de lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon à la place d'une multitude. Là, c'est la préposition à la place de. Il s'agit encore du sens de sa mort. Donc, avec tous ces parallèles, je crois que nous ne pouvons pas en douter. Ici, le rapport entre le un seul qui est mort et les tous qui donc sont morts représentés en lui est aussi un rapport de substitution. Ceux qui vivent maintenant, bien qu'ils soient morts dans le Christ, ils ne sont pas morts de la même manière que lui. Ils sont morts justement en sa personne, en tant qu'il les représentait, et de telle sorte qu'ils n'ont pas eu à subir la même mort que le Christ. Voilà ce que l'on peut, me semble-t-il, déjà dégager de ces deux versets. Les deux versets qui suivent développent ce qu'implique la mort à l'ancienne manière de se comporter, ne vivent plus pour eux-mêmes. Voilà ce que ça signifie, nous dit Paul au verset 16 et au verset 17, ce qui montre qu'il développe le sens, la portée, c'est le mot qui introduit chaque fois dans l'original, de la sorte que, au début du verset 16, au début du verset 17, nous avons ce qu'on peut traduire, de la sorte que, ainsi donc, etc. Deux conséquences. D'abord, une conséquence qui affecte la connaissance, de sorte que nous ne connaissons désormais personne selon la chair. Et si nous avons connu selon la chair le Christ, nous ne le connaissons plus maintenant. Il s'agit, avec l'expression « selon la chair », une expression biblique typique, d'une façon de voir à la manière des hommes. D'ailleurs, la traduction œcuménique, la traduction top, traduit d'une manière, à la manière humaine. Il s'agit de l'optique, il s'agit de toute la façon de voir, des présupposés, de l'organisation, du champ de la connaissance, de ces choses d'ailleurs que nous évoquions aussi hier soir. Il ne s'agit absolument pas de rattacher l'expression « selon la chair » ici au mot « Christ ». Certains théologiens, vraiment, me semble-t-il, sans aucune raison sérieuse, ont essayé de rattacher les mots « selon la chair » à Christ. Disons, si nous avons connu le Christ selon la chair, ça veut dire si nous avons connu le Christ dans son apparence charnelle, si nous l'avons vu sur les chemins de Galilée, etc. Mais c'est là une erreur manifeste d'interprétation. D'abord, ce contraste entre un Christ selon la chair et un Christ qui ne serait pas selon la chair n'est jamais fait dans le Nouveau Testament. Et puis d'autre part, dans le passage ici, il s'agit de la connaissance, d'une caractérisation de la connaissance. Car il est dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Il s'agit donc de signaler quelle est la transformation de la manière de juger, de penser, de connaître. Nous sommes tous liés à une certaine optique. Je ne pense pas qu'on puisse le nier, si importante que soit aussi la réponse des faits à notre façon de les prendre, il y a toujours une façon de les prendre. J'ai lu récemment dans un livre qui n'est pas du tout un livre consacré à l'étude biblique, le compte-rendu d'une petite expérience psychologique qu'on a faite parmi les étudiants du MIT à Harvard, à côté de Harvard. On a pris deux groupes d'étudiants avant la conférence d'un conférencier extérieur. Et à l'un de ces groupes, on a dit avant la conférence, voilà, celui qui va vous parler, tel curriculum vitae, etc. Et puis, on le considère généralement comme un homme très, très chaleureux, un conférencier qui saisissant, etc. Puis à l'autre, sans qu'il y ait eu communication entre les deux groupes, on a fait le même petit topo introductif, mais on leur a dit, c'est un homme froid, très rigoureux, etc. Et puis ensuite, on a, par des questions, après la conférence, on a sondé les étudiants des deux groupes pour voir comment ils avaient réagi. Le résultat a été absolument net. Tous ceux à qui on avait dit c'est un homme chaleureux l'ont trouvé chaleureux. Tous ceux à qui on avait dit c'est un homme plutôt froid, etc., l'ont trouvé tel également. Et ceux à qui on avait dit c'est un homme chaleureux l'ont beaucoup plus apprécié que les autres. Ce n'est là qu'un des aspects de ce conditionnement de l'optique. Il y a des aspects beaucoup plus fondamentaux et qui tiennent à la logique même en œuvre. Mais ne nous faisons pas d'illusions, nous sommes affectés par une façon de prendre les choses. Et Paul, dans le verset 16 ici, souligne la transformation de la connaissance qui implique ce changement. Tous donc sont morts à une ancienne façon de regarder le monde et les autres, et le Christ d'abord. Le Christ est au centre, et à partir du renouvellement de la connaissance du Christ, toute connaissance est renouvelée. Pourquoi cet accent de l'apôtre Paul sur le changement de la connaissance? Je crois que nous devons percevoir que dans l'Écriture, le thème de la connaissance est un thème privilégié, que le cœur qui connaît, c'est de lui que sortent les sources de la vie, que jaillissent les sources de la vie, comme le dit le livre des Proverbes. Selon qu'un homme pense en son cœur, tel il est, la conséquence du « un seul est mort pour tous » ne se tire pas automatiquement. Il y faut la médiation d'une connaissance, d'une intelligence renouvelée. Mais Paul ne veut pas pour autant réduire tout au fonctionnement intellectuel. Et au verset 17, introduisant de nouveau par l'expression « de sorte que » il élargit et il proclame « si quelqu'un est en Christ, nouvelle création ». Je traduis là littéralement parce que je préfère suivre exactement les termes de l'original. On peut traduire « créature » aussi. Le même mot grec se traduit aussi bien « créature » que « création ». Alors on peut traduire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et je suis prêt à souscrire à cette proposition comme proposition théologique. Mais je crois que c'est rétrécir. L'apôtre ne met pas de verbe ici, il se contente en quelque sorte d'une proclamation abrégée, si quelqu'un en Christ, nouvelle création. Étant donné la présence de ce thème de la nouvelle création dans pas mal de textes bibliques, il me semble que c'est la meilleure traduction ici. L'apôtre semble faire allusion dans ce verset à une prophétie d'Ésaïe, non pas celle que j'ai lue tout à l'heure, mais celle qu'on trouve au chapitre 65 d'Ésaïe et au verset 17. Dieu proclame là, voici, je crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce thème de la disparition des choses passées qui s'enfuit loin est dans ce passage associé à la notion de nouvelle création. Or, nous retrouvons ces deux thèmes. Les choses passées qui passent, définitivement, dans le verset 17. Donc il me semble que l'apôtre Paul fait une allusion ici à la prophétie d'Ésaïe et qu'il proclame la nouvelle création. Un commentateur, un fameux commentateur du XVIIIe siècle en Angleterre, Matthew Henry, dit « La grâce de la régénération crée un nouveau monde dans l'âme ». Je pense que c'est une façon d'exprimer la portée de ce verset, mais que c'est encore trop restreindre, que c'est trop subjectiviser un nouveau monde dans l'âme. C'est pas seulement dans l'âme. La nouvelle création est une création qui touchera le cosmos, et ce qu'affirme Paul, c'est qu'elle commence dès le temps présent, que ses arts, ses prémices, son commencement, son acompte, comme vous voulez, est déjà effectif dans le temps où nous sommes par la puissance de l'Esprit du Christ. Si quelqu'un est en Christ, son existence est déjà touchée par l'œuvre de nouvelle création annoncée par Ésaïe 65. Je pense que ce sens peut être confirmé. Je vous ai promis que je vous citerai certains passages parallèles parce que nous trouvons à la fin de l'épître de Paul aux Galates une autre parole de l'apôtre Paul où il dit « Ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision. Ce n'est plus la grande différence qui séparait les Juifs et les païens, les goyims. La circoncision n'est rien, au verset 15, ni l'incirconcision, mais nouvelle création, de nouveau. » Là, manifestement, l'apôtre Paul, au lieu d'employer, comme il le fait dans l'épître aux Colossiens, pour servir de pendant au thème de la circoncision charnelle qui maintenant ne compte plus, là, manifestement, l'apôtre Paul, au lieu d'employer, comme il le fait dans l'épître aux Colossiens, pour servir de pendant au thème de la circoncision charnelle qui maintenant ne compte plus, le thème de la circoncision du cœur, du changement du cœur purifié, emploie le thème de la nouvelle création. La circoncision du cœur, dont il parle en Colossiens 2, comme du pendant dans le temps où nous sommes de ce qu'était la circoncision charnelle dans l'Ancien Testament, la circoncision du cœur est présentée comme l'amorce, le début, l'inauguration de la nouvelle création. Mais il y a une condition. Si quelqu'un est en Christ, que veut dire cette formule qui revient souvent sous la plume de l'apôtre Paul, ou plutôt, puisque c'est en général, il dictait ses lettres sur ses lèvres. Ça a suscité pas mal de discussions parmi les spécialistes. Je ne vais pas entrer dans le débat. Je crois qu'il faut exclure l'idée que certains ont eue, qui suggère que le Christ serait une espèce de milieu, d'atmosphère pour l'apôtre Paul. Non, le Christ, esprit vivifiant, n'est pas un être gazeux. Il n'est pas question pour nous d'être en Christ dans ce sens-là. L'expression qui me semble expliquer le mieux cette formule « en Christ », c'est l'expression que Paul met en parallèle dans quelques passages, dans l'Épître aux Romains au chapitre 5 et dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 15, que nous lirons demain. C'est l'expression « en Adam ». L'apôtre Paul, là, fait un contraste entre les deux situations fondamentales. En Adam, en Christ. Il a la vision d'un grand corps de l'humanité, d'une communauté qui se trouve sous un chef, en alliance avec Dieu. Naturellement, nous naissons en Adam, et nous mourons en Adam, comme il dit dans 1 Corinthiens 15. En Adam, parce qu'il est le chef à partir duquel se définit notre condition créationnelle. En Christ est la formule qui correspond. Le Christ est le chef de la nouvelle humanité, de l'humanité de la nouvelle création. Ce qui me semble confirmer que c'est bien le sens ici, c'est que vous voyez associer cet en Christ au thème de la nouvelle création. En Adam, ça correspond à la première création, en Christ, à la nouvelle. La nouvelle humanité rassemblée sous ce chef, représentée par lui, voilà l'humanité qui bénéficie de l'œuvre qui est ici en cause. Alors nous atteignons maintenant le cœur de l'enseignement de ce passage avec les versets qui suivent. Comment la recréation a-t-elle pu s'opérer ? C'est en le dévoilant dans les versets 18 et suivants que l'apôtre définit le sens de la mort du Christ. Tout cela vient de Dieu, dit-il, et il explique. C'est évidemment à la mort de Jésus-Christ que pense l'apôtre, pas à tout le déroulement de son ministère, bien qu'il ne le précise pas de manière ici expresse. Le verset 21 nous oblige à le penser. Quand il dit « il a été fait péché pour nous », il ne peut avoir en vue là que l'événement de la croix, nous allons y revenir, et ce qui nous prouve que c'est de la mort de Jésus qu'il parle, c'est par exemple le parallèle de l'Épître aux Romains chapitre 5 verset 10, où il nous dit que nous avons été réconciliés par la mort de son Fils. Donc vous voyez, le thème de la réconciliation qui est ici mis en valeur est étroitement lié à la mort. Donc c'est bien de la mort de Jésus qu'il est question et de son sens. Le terme de réconciliation est employé pour nous aider à comprendre. Le terme était peut-être spécialement bien choisi pour les Corinthiens parce que Jules César, au moment de reconstruire Corinthe, rasée un siècle plus tôt, en 44 avant Jésus-Christ, Jules César avait proclamé une réconciliation, nous dirions-nous une amnistie, pour tous ceux qui viendraient peupler la ville, pour encourager, n'est-ce pas, le repeuplement de cette ville qu'il avait fondée à nouveau. Il avait annoncé que tous ceux qui avaient eu maille à partir avec la justice impériale, tous ceux qui avaient donc un casier judiciaire chargé, seraient amnistiés, réconciliés, s'ils venaient habiter à Corinthe. Il est possible, donc, le souvenir au temps de l'apôtre Paul subsistait encore de cette mesure à Corinthe. C'est ce que suggère la note du Nouveau Testament Tob, l'édition avec des notes développées. En tout cas, ce terme souligne que la mort de Jésus obtient son effet d'abord dans notre rapport à Dieu, réconciliant le monde avec lui-même. Il y avait rapport d'inimitié alors que nous étions ennemis, dit Romains 5. Inimitié de notre côté avec notre révolte, plus ou moins déguisée en indifférence ou en défiguration idolâtre du vrai Dieu. Mais il y avait inimitié du côté de Dieu aussi, dans un sens, puisqu'il est question de sa colère. Le thème de la colère du Saint d'Israël contre tout péché du Dieu dont les yeux sont trop purs pour voir le mal est aussi un thème très souvent attesté dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. Et puis nous devons nous rendre compte que le mot de réconciliation dans le langage biblique n'a pas tout à fait les mêmes connotations que pour nous. Je me repose surtout sur le travail de spécialiste à ce propos et du savant anglican Leon Morris dans son livre sur la prédication apostolique de l'Évangile. Il souligne que, alors que pour nous, réconciliation évoque surtout les sentiments qui doivent être modifiés et surtout les sentiments de celui qui est méchant et qui doit devenir gentil, ce n'est pas ce que suggère d'abord le terme dans l'usage grec et l'usage grec biblique tout spécialement. Il s'agit d'apaiser la colère de l'offensé. Il s'agit de gagner à nouveau la faveur du roi courroucé lorsqu'il s'agit de la révolte d'un sujet ou d'un vassal. Il s'agit donc d'abord de cette opération-là. Et que ce soit bien le sens de l'apôtre Paul ici, me semble tout à fait net dans la précision qu'il donne au début du verset 19. Comment Dieu a-t-il réconcilié le monde avec lui-même dans la mort de Jésus-Christ? Eh bien, nous dit-il, en ne comptant pas, ne mettant pas au compte des hommes leurs offenses. Voilà l'expression qu'il emploie. Ça veut dire que le problème qui était à résoudre, ce n'était pas donc un problème simplement de sentiments, c'était le problème des offenses et de leur imputation, de leur mise au compte des hommes par le juge. Voilà ce qui faisait barrière entre Dieu et l'humanité. Voilà ce qui est évoqué à l'aide de l'image de la colère divine contre le péché. C'est le problème des offenses et de leur imputation. Problème qu'on pourrait dire, si on veut, de type juridique, c'est l'analogie du langage juridique en tout cas, qui joue ici. Alors la question se pose, comment l'apôtre voit-il cela dans la croix, ne mettant pas au compte des hommes leurs offenses? À la croix, comment voit-on cela, que les offenses ne sont pas mises au compte des hommes? Il me semble qu'il y a une seule réponse à cette question. Comment à la croix cela se voit-il? Cela se voit uniquement parce qu'elles sont mises au compte d'un autre. Autrement, à la croix, comment le verrait-on, n'est-ce pas, qu'ils ne sont pas mises au compte des hommes? C'est parce que celui qui meurt mystérieusement, mais selon la volonté de Dieu, n'a pas mérité le châtiment qu'il subit, que nous pouvons conclure que Dieu ne fait pas tomber sur ceux qui le méritaient, le châtiment. Si un doute subsistait, ce sens, et pourtant je ne vois pas comment on pourrait comprendre autrement la clause ne mettant pas au compte des hommes leurs offenses, le verset 21 alors supprimerait parfaitement toute hésitation, toute interrogation à ce propos. Peut-être que Paul l'a ajouté en fin de paragraphe, justement parce qu'il s'est rendu compte que c'était un peu une litote qu'il avait employée au verset 19, en disant « ne mettant pas au compte des hommes leurs offenses », et au verset 21, donc, il précise parfaitement « celui qui n'avait pas connu le péché, aucune compromission, aucune connivence entre lui et le mal, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Là, alors, la pensée de la substitution, de l'échange, du transfert est manifeste. Ce qu'il n'avait pas du tout, de par ses actes, aucun péché, a reposé sur lui. Il a été identifié en quelque sorte au péché. Il y a eu transfert de la culpabilité de tous ces hommes coupables, afin qu'il y ait transfert inverse et que la justice parfaite, ce qui permet de tenir devant Dieu, que sa justice nous soit à nous transférée. Vous voyez, l'opération du verset 21 est parfaitement nette. L'économie de cette phrase est tout à fait claire. Et nous trouvons ici donc la confirmation de ce que nous avons dit tout à l'heure à propos du rapport de substitution. Un seul est mort pour tous, cela veut dire il a subi la mort, châtiment du péché, que tous ceux qui sont en cause ici avaient mérité. Lui, le représentant, capable de se substituer aux siens, de payer pour eux, l'a fait en effet. Il a livré sa vie en rançon pour leur multitude. Alors nous trouvons d'autres passages où c'est expliqué, où la même chose est expliquée avec beaucoup de clarté. Je veux me référer à un seul, parce qu'il est spécialement puissant, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 3. L'apôtre Paul nous explique ce qui est en cause ici. Il explique au verset 10 que tous les hommes se trouvent sous la malédiction parce qu'aucun ne s'est montré capable d'obéir à la loi de Dieu. Tous ceux qui ont à faire valoir leurs œuvres devant Dieu sont sous la malédiction, dit-il au verset 10, car il est écrit « Maudit soit celui qui ne demeure pas dans toutes les choses écrites dans la loi de cette loi pour les faire. » Donc, avec la preuve d'un texte de l'Ancien Testament, qui fait bien sûr autorité entière pour Paul, il a la preuve. Tous qui n'ont pas obéi strictement à tous les commandements de la loi divine sont sous la malédiction. Mais alors, comment sortir de cette impasse? Verset 13. Le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous malédiction, selon qu'il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois, c'est-à-dire suspendu à une potence comme Jésus l'a été sur la croix. Nouveau texte biblique, l'apôtre Paul, par la citation de ce texte, nous prouve que Jésus-Christ a été maudit, qu'il a subi la malédiction, il a été fait malédiction, comme il dit, il a été fait péché dans 2 Corinthiens 5. Et c'est ce qui nous rachète de la malédiction qui était sur nous. De nouveau, la pensée de la substitution est extrêmement claire, avec l'idée que c'est la condamnation pesant sur nous, qui nous rendait prisonniers de la loi, asservis, que Jésus-Christ a prise à notre place, nous représentant, pour nous en libérer, pour nous en racheter. Alors cette logique qui est terrible, cette logique suppose dans la pensée biblique le principe de la rétribution, c'est-à-dire celle qu'exprime Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu ne pouvait pas renoncer à cette rétribution sans se mépriser lui-même, sans être infidèle à sa parole, et sans manquer aussi du respect qu'il a pour l'être créé en son image, dont les actes comptent pour lui, et qu'il ne va pas, en quelque sorte, par une espèce d'indulgence sirupeuse, exonérer de la conséquence de ce qu'ils ont fait. Le principe de la rétribution est un principe biblique. Il est appelé, notre Dieu, Dieu de rétribution. C'est un nom qui lui est donné par Jérémie, chapitre 51, verset 56. Et vous retrouvez la chose dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul affirme avec beaucoup de force ce principe dans l'Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 5 et 6. Je ne les lis pas faute de temps, mais vous pourrez les considérer. Je vous donne quand même la référence. On peut se demander, bien sûr, pourquoi la mort doit-elle être cette rétribution du péché? Pourquoi pas autre chose? Bon, je vous lance quelques idées pour votre réflexion. C'est peut-être parce que c'est le châtiment capital. Châtiment qui se dédouble d'ailleurs selon la dualité de l'homme même. Il est question de première mort, la mort physique, et puis de seconde mort, la mort éternelle, de ce que la Bible appelle la géhenne. On peut dire aussi, c'est parce que Dieu est la source de vie dont se sépare le fou misérable qui se prétend l'alpha et l'oméga de sa propre vie. Dieu étant la source de vie, il n'y a que la mort qui puisse sanctionner la révolte et la rupture. On peut dire aussi que c'est parce que c'est la vie qui fait le lien entre la personne et son acte. Vivre, c'est justement pouvoir poser des actes. Et c'est dans la continuité de ma vie que je suis lié aux actes que j'ai commis. Et en quelque sorte, le juste juge, en privant de la vie, remet dans l'ordre la personne qui s'est livrée au désordre en face de ses commandements. Un poète de langue anglaise, je ne sais plus lequel, je l'avoue, a dit, si je me rappelle bien, « Thou owest nature a death. Tu dois une mort à la nature. » Je crois que ce n'est pas là la pensée biblique. Ce n'est pas à la nature que nous devons une mort. Mais la Bible dit, si tu t'es dressé contre celui qui est la vie de ton âme, comme ton âme est la vie de ton corps, si tu as choisi le néant du mensonge, le mal contre le bien, alors il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre destinée que la mort. Que le Fils nous en est délivré, parce qu'il s'est rendu notre chef, représentant qui a pu se substituer à nous, parce qu'il est devenu l'Adam nouveau, chef d'une humanité nouvelle, agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est, j'en suis persuadé, le cœur du message biblique. Et il a été perçu par beaucoup d'autres. Au second siècle, il y a une épître dont l'auteur a poussé la discrétion jusqu'à rester anonyme, l'épître à Diognète, qui est un joyau de la littérature patristique, qui s'écrit « Ô doux échange, ô dispensation ineffable, bienfait inespéré, L'iniquité de plusieurs a été cachée en un seul juste. La justice d'un seul justifie une multitude de pécheurs. Cette signification a été par la suite, je crois, assez gravement obscurcie par l'influence d'une métaphysique grecque, et c'est elle qu'a remise en pleine lumière Luther. Et je vais maintenant lire une citation de Luther, une lettre de Luther. Voilà ce qu'il dit. « Apprends à connaître le Christ et le Christ crucifié. Apprends à chanter sa louange et à désespérer de toi-même. À dire, toi, Seigneur Jésus, tu es ma justice, mais moi, je suis ton péché. Tu as assumé ce qui est à moi et tu m'as donné ce que je n'étais pas. » C'est bien là, je crois, la compréhension centrale de ce message. Au temps de Luther, la redécouverte a été favorisée par une assez grande diffusion de l'angoisse de la culpabilité, et les conditions sont peut-être moins favorables aujourd'hui. Le sens de la culpabilité s'est décalé, s'est modifié, mais il me semble que c'est à nous de nous ajuster, et si nous ne sentons pas les choses assez vivement, de pleurer pour que le Seigneur nous donne de sentir l'horreur des iniquités qui sont sur nos mains, pour apprécier d'autant plus alors la joie du soulagement par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est à cause de la justice de Dieu, de cette justice du Seigneur Saint, que les choses anciennes ne pouvaient pas passer autrement, que la nouvelle création n'était pas possible sans qu'un Adam nouveau liquide le contentieux de toute la vieille création. Il fallait que le nouvel Adam se charge de nos fautes pour que les énergies de la création nouvelle, avec le renouvellement de la connaissance dont il est question, puissent se produire. Et de ce renouvellement de la connaissance, il me semble qu'il est question aussi dans les versets 18 et suivants, à propos du ministère de la réconciliation. C'est un autre volet. Dieu a tout accompli, tout vient de Dieu, dit l'apôtre. Mais cependant, cela ne s'applique pas de façon automatique. Et l'apôtre, en parlant de ce qui s'est passé à la croix, mentionne également l'institution du ministère de la réconciliation, qui est un ministère de parole rempli par les ambassadeurs du Christ qui invitent à une décision. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il s'agit encore de recevoir le fruit de l'œuvre qui a été accomplie. Il s'agit de se joindre à l'humanité nouvelle et de devenir en Christ. Si quelqu'un est en Christ, ce n'est pas automatique. Si quelqu'un est en Christ, s'il passe de la connaissance selon la chair à la connaissance nouvelle. Alors la question qui se pose, me semble-t-il, c'est « Mais comment Dieu a-t-il fait cela à la croix ?» Puisque ce n'est pas à la croix que l'ordre missionnaire a été lancé, par exemple. Or, l'apôtre Paul concentre ici tout son enseignement sur ce que Dieu a fait à la croix. Je suggère juste une idée. Je pense qu'il l'a fait à la croix dans la mesure où, à la croix, il a montré qu'il voulait que ses rapports avec les hommes se situent toujours au plan de la responsabilité. Dieu, à la croix, traite les hommes comme des responsables. C'est le sens même de la nécessité que cette coupe ne passe pas de Jésus. Dieu ne traite pas les hommes comme du menu fretin. Dieu traite les hommes comme ces êtres en son image, ces hommes, ces créatures filiales en quelque sorte, dont il honore la responsabilité devant lui. Et c'est à cause de cette responsabilité qui se manifeste dans l'économie même de la croix qu'on peut dire que le ministère de la réconciliation, qui appelle à une décision personnelle responsable, a été institué dans la croix même, par l'événement même de la mort de Jésus-Christ. Pour nous, cela veut dire qu'il faut s'engager. Il faut s'engager pour discerner le sens de la mort du Christ et, par extension, le sens de la mort de tous. Qu'on ne peut pas, en un point d'Archimède, en quelque sorte, sans s'engager, en se mettant hors du coup. Qui est hors du coup lorsqu'il s'agit de la mort? Qu'on ne peut pas discerner le sens, qu'on ne peut pas connaître, comme l'apôtre Paul nous annonce qu'on peut ici connaître. C'est lorsqu'on s'engage que l'on peut discerner ce que signifie la mort de celui qui est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qu'ils vivent d'une vie qui a triomphé de la mort en Christ. Il est admirable que toutes ces choses aient été prophétisées 7 siècles à l'avance avec une telle précision. J'ai lu tout à l'heure le 4e chant du serviteur, comme on l'appelle, et vous remarquez maintenant que pratiquement tout y est déjà. Nous y avons la figure du serviteur de l'Éternel qui est tête d'une communauté formée d'une multitude qui porte les péchés à la place des coupables, intervenant ainsi pour eux. Nous avons la manière dont il fait participer les multitudes en faveur desquelles il s'est livré au bien qu'il a acquis. Et nous avons même le moyen, semble-t-il, si on suit le texte, par lequel cette communication se fait. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera les multitudes. Par sa connaissance. La connaissance même, me semble-t-il, dont il est question dans la seconde épître aux Corinthiens. Admirez avec moi l'harmonie des Écritures. Alors la question porte sur la mort à soi-même, telle que le verset 14 et le verset 15 l'impliquent. Je n'ai pas beaucoup développé et on voudrait que je développe un peu davantage. Alors, je dirais, surtout il ne faut pas sortir de la mort à soi-même, parce que la mort à soi-même, c'est la vie, la vraie. Mais le commentaire que je pourrais ajouter à ce que j'ai dit serait le suivant. Il y a de la mort à soi-même, une conception fausse qui la fait équivaloir à la dissolution, à une sorte d'extinction de l'individualité. C'est sous une influence que je crois orientale que cette pensée s'est diffusée. Elle est présente dans toute une tradition mystique occidentale aussi, mais celle qui a le plus d'attache avec les pensées typiquement orientales. Je pense aux études qui ont été faites pour comparer l'enseignement de Maître Eckhart, par exemple, avec Sankara en Inde. Vous voyez, c'est ce que je veux évoquer en parlant de conception orientale. Ce n'est pas du tout, je crois, la pensée biblique. La pensée biblique concerne non pas les frontières de l'individualité, la précision d'une existence définie à sa place, mais concerne le rapport à Dieu et la valeur que l'on sert, la référence qui détermine. La mort à soi-même, c'est le respect de la priorité divine qui se concrétisera par une priorité du prochain dans le comportement. Voilà comment je commenterai, et je dirais alors que dans notre tradition, est-ce que j'ose employer le terme évangélique, dans notre tradition, il y a parfois, plus ou moins marginalement, mais effectivement, la fausse conception qui se mêle, et que certains des cantiques du recueil qu'on utilise couramment dans mon église, je les trouve suspects de quelques équivoques à ce propos. Alors la question, c'est comment annoncer ce message sans qu'il soit mécompris et qu'il produise des conséquences négatives. Il ne faut annoncer ce message de la mort à soi-même qu'à des personnes assez mûres, parce qu'autrement, elles ne le comprennent pas et se détruisent. Quelle est la manière de faire passer dans le comportement concret ce message ? Ah, je trouve que la question est difficile. qui concerne la communication, il me semble que je ne peux pas accepter de restreindre cette prédication aux personnes assez mûres pour l'entendre, parce que qui a la maturité voulue à ce moment-là? Le Christ l'a prêché à des auditoires très très divers, et donc je dois croire que ce message même, malgré les risques d'incompréhension, peut être un facteur dans la maturation. « Il me semble que la discipline, la meilleure dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, c'est de tenir compte de la totalité scripturaire. Que le danger, c'est toujours d'abstraire un verset, une parole, et de ne pas se lier pour sa compréhension à une sorte d'accompagnement constant du texte. Il me semble que quand on voit ce que ça a signifié pour notre Seigneur lui-même, mais pour les apôtres, pour Paul, dont la vie nous est particulièrement bien connue, on perçoit mieux ce que ça signifie et qu'il y a un aspect qui est moins doctrinal que pédagogique, une sorte de pédagogie du modèle de l'exemple, qui peut être extrêmement utile dans ce domaine et contribuer à la maturation et au passage donc au comportement concret. Alors la question est la suivante, vous avez parlé de substitution, mais il y a aussi le thème de l'identification, en particulier tel qu'il apparaît dans le texte « J'ai été crucifié avec Christ » et « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi », Galates 2:20. Que faire donc de ce thème second ? Je dirais en premier lieu que le terme d'identification me semble relativement dangereux parce qu'il est peu précis. On ne sait pas très bien exactement ce qu'on veut dire quand on dit identification. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul individu ? Est-ce que ça veut dire qu'il y en a plusieurs ? Le mot identification pour moi en tout cas, n'est pas très très clair et je ne l'emploie pas tellement. J'essaie plutôt de l'éviter. Deuxième question, le sens particulier de ce verset de l'Épître aux Galates, Galates 2:20. Je n'ai pas le temps, je crois, de l'expliquer maintenant, étant donné le repas qui arrive. Mais je dirais que je ne crois pas qu'il s'agisse là d'identification mystique, de fusion au Christ. Je crois que c'est un langage juridique que l'apôtre Paul emploie dans l'ensemble de ce passage. C'est un raisonnement juridique assez serré qu'il développe à propos du rapport à la loi. Et il me semble donc que ce qu'il évoque ici, c'est plutôt la représentation, dans le même sens que dans 2 Corinthiens 5,14, tous donc sont morts en lui en tant qu'ils étaient représentés en lui, et ainsi échappent à la domination de la loi, du vieux système, etc. Maintenant, troisièmement, je ne rejette pas, en dehors de ce verset, le thème d'une union à Christ dans sa mort, vécue par le croyant. C'est dans Romains 6 surtout que je trouverai ce thème où il est question de la reproduction, une reproduction en quelque sorte analogique dans la vie de l'individu de la transition entre l'ancienne existence et la nouvelle. Le Christ en quelque sorte prit sur lui l'ancienne existence pourrie par le péché, l'a conduite à sa fin, liquidé le contentieux et a émergé comme chef d'une humanité nouvelle avec une forme de vie nouvelle. Nous allons en reparler. Et cela, lorsque on entre en Christ, lorsqu'on devient en Christ par la foi, cela a sa contrepartie, en quelque sorte, dans la vie de l'homme. Il meurt à son ancienne existence, que nous avons expliqué. C'est une expérience qu'il fait, accédant à une vie nouvelle, et cela peut être appelé mort avec Christ et résurrection avec Christ.